Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Mathieu, bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va bien, vive l'été et dommage, l'été est fini.
Il faut bien reprendre un jour de travail, malheureusement. Alors, quelques petites nouvelles pour se mettre en forme avant nos débuts d'émission. D'abord, très bonne nouvelle, nous passons à une heure par mois.
Ouais, bravo.
Alors, Poker Menteur va dorénavant être diffusé tous les jeudis. Tous les jeudis, hein.
Les troisièmes jeudis du mois, n'abuse pas. Hein.
Ah oui, excusez-moi. Tous les troisièmes. Peut-être que l'année prochaine, ce sera le cas.
Tous les troisièmes jeudis
du mois. Et ce sera rediffusé le samedi suivant à 11h. D'accord. Donc, on reste à une fois par mois, mais cette fois-ci, une heure le jeudi. Et rediffusion, donc le samedi à 11h. Alors. L'été meurtrier, ça me rappelle un film avec Isabelle Adjani. Mm-hmm. Malheureusement, on a essayé de l'inviter, elle n'est pas venue.
Non, elle n'a pas voulu.
On va passer à autre chose que l'été meurtrier. Un été meurtrier au niveau des événements qui se sont déroulés en juillet et en août. Mm-hmm. Par rapport à deux thèmes majeurs qui vont être au cœur de l'émission, c'est-à-dire le réchauffement climatique et l'évolution du climat. Mm-hmm. Par rapport à deux événements importants, dont un, malheureusement, dont on a très peu parlé, ce sont les inondations au Kerala.
Et l'autre. Confirme, on n'a pas entendu du
oui,
tout.
Enfin, moi, ça me marque d'autant plus facilement parce que j'aime beaucoup la climatologie et je suis régulièrement tout ce qui est incident climatique. Mm-hmm. Parce qu'on a de plus en plus effectivement des problèmes climatiques liés au réchauffement climatique et je trouve que on n'en parle pas assez, on en parle très peu.
Ouais.
Et surtout aussi, on parlera du réchauffement tout simplement en France et on a bien vu qu'on a eu très 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 chaud.
T'as oublié un très 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 chaud.
Alors ça, c'est la première partie en gros de l'émission. Enfin, il y aura un thème au début et un thème, on va voir, à la fin, mm-hmm. lié à l'émission de Nicolas Hulot. Et au centre, on aura deux thèmes liés à l'Italie.
Oui.
Alors, on va quand même revenir après sur l'effondrement du pont de Gênes, qui était une catastrophe à la fois humanitaire, tout simplement, et économique.
Ouais.
Et on parlera aussi, effectivement, avec l'Italie, ça rebondit sur l'émission que nous avons faite, je ne sais plus si c'était en avril, je me trompe, c'était
en avril, oui,
il me semble,
sur l'Italie.
Sur la situation actuelle des migrants.
Oui.
Alors maintenant, on démarre sur le réchauffement climatique et quelques aspects, parce qu'on va voir évidemment quelques aspects du réchauffement climatique avec, je dirais, nos recherches, nos réflexions là-dessus. Alors, je démarre par le Kerala. Alors, qu'est-ce que le Kerala? Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas cette région d'Inde. C'est une région située, alors l'Inde a une forme triangulaire.
Oui.
C'est une région qui est située à l'extrémité sud de l'Inde.
D'accord.
Qui est une région riche. Mmh. Qui est une région touristique,
ouais.
qui produit des épices. Bref, c'est une région stratégique pour l'économie indienne.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qui arrive au mois d'août? Quasiment en même temps, d'ailleurs, que l'effondrement du pont de Gênes. C'est à quelques jours près. Hein.
Ouais.
Je crois que c'était deux jours après. J'ai pas noté la date exacte parce que, tout simplement, j'ai du mal à la trouver sur Internet et qu'on en a très peu parlé. Par contre, j'ai relevé des chiffres absolument terribles. Il y a eu, lors de ces inondations, donc vous avez en Inde, dans cette partie du pays, ce qu'on appelle des moussons d'été. Alors qu'est-ce que des moussons d'été? Ça existe depuis des milliers d'années. Hein.
Oui.
L'Inde reçoit deux types de vent, la mousson sèche de l'hiver, où là vous n'avez pas une goutte de pluie.
Ouais.
Et qu'est-ce qui arrive à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre? Vous avez d'énormes précipitations qui arrivent sur le pays et qui créent des inondations. Simplement, on n'a jamais vu des inondations à ce point-là.
D'accord.
Importantes.
Ouais.
445 morts.
Ouais.
1 million de déplacés, 50 000 logements détruits. Vous imaginez la crise humanitaire que ça représente, sans parler des conséquences sur le terrain, à savoir disparition de l'eau potable.
Ouais, bien sûr.
Problème effectivement d'infection, problème de maladie.
Ouais.
Donc, le Kerala a dû faire avec sa situation, et je vous dis, dans les médias, c'était vraiment, vraiment minimisé.
Oui, c'est le principe du mort kilométrique.
Tu peux expliquer un peu ce que c'est, Patrick ?
Le mort kilométrique, c'est dans le milieu du journalisme l'idée que plus les morts sont lointains, géographiquement parlant, moins ils intéresseront le spectateur, le client, l'auditeur, le lecteur, selon le média. Et donc, les journalistes parlent très peu des drames, même s'ils sont extrêmement graves, qui se produisent loin de chez nous. C'est aussi simple que ça.
Absolument. Donc, j'ai fait l'effort aussi de regarder. Alors, j'ai fait des calculs de moyenne, donc par rapport au fait qu'on n'en parle pas. Donc, effectivement, on connaît pas. Hein, on essaie d'expliquer la mousson aux personnes autour de moi. On a une vague idée de ce que ça représente. Moi, j'ai des chiffres. Au Kerala, de mai à octobre, il devrait y avoir 1500 mm de précipitation.
Ouais, d'accord.
Ça représente 1,50 m d'eau.
Ouais.
D'accord. Là, il y en a eu 40% en plus.
Mmh.
Il y a eu plus de 2,10 m d'eau.
D'accord, ok.
Et en plus, concentré surtout.
Oui, non pas sur les mois dont tu as parlé, mais dans une période très courte.
Donc on imagine ce que ça a pu donner.
Mmh.
Alors, j'ai un témoignage. J'ai regardé notamment sur Radio-Canada, qui diffuse aussi des reportages télévisuels. Il y a un habitant du Kerala qui a déclaré: par le passé, il n'y avait jamais plus de 30 cm d'eau.
Mmh.
Les gens ne sont pas habitués à ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut s'habituer à 70, 80, 90 cm d'eau.
Oui, oui.
On imagine.
Donc on pourrait dire que c'est un peu le constat que font les climatologues, parce que pendant longtemps, en fait, des phénomènes exceptionnels climatiques ont toujours été questionnés dans le sens: est-ce que c'est vraiment lié au réchauffement climatique ou est-ce que c'est pas un hasard statistique? Parce qu'en fait, il y a des événements extraordinaires qui sont des hasards statistiques. Et c'est seulement depuis peu de temps, 2-3 ans maximum, que les scientifiques, les climatologues disent non, non, ce ne sont plus des hasards statistiques, ce sont vraiment les manifestations des dérèglements provoqués par le réchauffement climatique. Donc là, on peut plus se retrancher derrière c'est la faute à pas de chance.
Non, non. D'autant plus qu'on le sait. Et je pense que c'est pas la priorité de beaucoup de chefs d'État dans le monde, à mon avis.
Ouais, ouais, ouais. Bah, disons que le gouvernement indien, quand il se prend ça, il doit gérer ça. Mais après, les autres, bon.
Oui, parce que
pas trop leur problème.
Le réchauffement climatique est lié en grande partie, évidemment, à l'homme, en grande partie. Mm-hmm. Hein, pas simplement parce que le climat change de lui-même par la nature, hein, parce que c'est assez compliqué l'étude d'un climat. Mm-hmm. Mais effectivement, les grandes puissances industrielles savent très bien les conséquences que leurs politiques ont sur le climat.
Oui,
je pense à la Chine et aux États-Unis notamment.
Oui, oui, oui. C'est tout le problème des objectifs de court terme, des objectifs de long
Absolument.
Terme et des premiers qui prennent le pas sur les seconds. On aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission quand on parlera on reviendra sur le sujet à travers la démission de Nicolas Hulot. En attendant, si tu le veux bien, on va faire une petite pause musicale. On va écouter un morceau qui a fait pas mal de bruit au début des années 2000, un morceau de Mickey 3D qui s'appelle Respire et qui est quand même un petit peu dans la tonalité de ce dont on parle là.
Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin.
Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Vous êtes bien sur Calade 100.9. Vous venez d'écouter le titre de Mickey 3D, Respire. Et nous allons justement maintenant parler du thème suivant, le thème sur le viaduc de Gênes. À toi, Patrick.
Ok, donc vous êtes toujours sur Poker Menteur. Nous passons à notre deuxième sujet, l'Italie. Et dans l'Italie, la question du viaduc, donc le 14 août. Durant ses vacances 2018, à Gênes, un grand viaduc sur lequel passe l'autoroute, une autoroute très fréquentée, s'est effondré et a fait 43 morts. Donc c'était vraiment la consternation. Beaucoup de gens autour de nous, et dans beaucoup partout en France et en Italie, se sont dit « j'aurais pu y être » parce que quasiment tout le monde y est passé un jour ou un autre sur cette autoroute et sur ce viaduc. Alors pourquoi il s'est effondré ? Premier point qu'on peut évoquer pour répondre à cette interrogation, c'est l'âge du pont et sa conception. Il a été construit dans les années 50, enfin dans les années 60, conçu dans les années 50, avec un matériau qui à l'époque était très nouveau, c'était le béton armé précontraint. Il était intéressant parce qu'il était bien plus léger que les matériaux de l'époque. L'ennui, c'est que depuis qu'il a été mis en service, le trafic a été multiplié par, devine combien ?
10 ?
Ben voilà, par 10.
C'est ça.
Le poids des véhicules a bien augmenté. Et ça fait 10 ans en Italie qu'on parle de construire un parcours alternatif pour les poids lourds. Mais bon, on parle et ça n'a jamais été fait. Alors, est-ce que c'est une spécificité italienne ? J'ai bien peur que non. En France, on compte 12 000 ponts. On estime qu'un tiers nécessite des réparations et que parmi ceux-là, 7% des ponts présentent des dommages qui font craindre des risques d'effondrement. 7%, ça fait quand même 800 ponts. Donc le risque existe hein, partout. Concernant la France, la situation française, il y a un bureau d'études suisse qui avait été mandaté par le ministère français des Transports pour analyser cette question-là, qui parle d'une insuffisance chronique de moyens consacrés à l'entretien et à la gestion du réseau de ponts. Par exemple, si on parle des dépenses moyennes de la France pour l'entretien des ponts, c'est environ 50 000 euros par kilomètre. Au Royaume-Uni, c'est 80 000 euros. Donc tout ça, ça nous amène à nous poser la question des investissements, mais pas qu'en Italie, mais quelque part dans toute l'Europe, des investissements dans les infrastructures, routières, ponts, etc.
Est-ce que tu penses qu'il y a des ponts vraiment dangereux en France ?
Ah ben oui, 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 il y en a 800 qui présentent des risques d'effondrement. Alors ça tout dépend ce que tu appelles dangereux. Hein. Après, si on est factuel, ceux qui présentent des risques d'effondrement, il y en a 800, d'après le rapport du bureau d'études suisse.
D'accord. Mais rassure-moi, j'espère que c'est pas sur le réseau autoroutier, non ?
J'en ai aucune idée, je ne sais pas.
Oui.
À surprise, tu verras. Alors, concernant l'Italie, puisque quand même on va commencer par l'Italie, pourquoi l'Italie a un problème de renouvellement, d'entretien de ses infrastructures, pour des raisons qui sont économiques d'abord. L'Italie a une dette publique énorme depuis bien plus longtemps que tous ses voisins européens. Dès le début des années 90, elle avait une dette publique très importante et donc elle mène depuis les années 90 des politiques budgétaires très strictes pour maîtriser cette dette. Et ce qui fait une austérité budgétaire qui, généralement, consiste notamment, pas uniquement, mais notamment à réduire les dépenses d'entretien et d'infrastructures et d'investissement dans les infrastructures. Cette politique s'est durcie encore à partir de 2011-2012 à cause de la politique européenne d'austérité imposée à l'Europe du Sud. Ce qui fait que, par exemple, pour l'Italie, eh bien, leur budget d'investissement en infrastructure est tombé de 13 milliards et des poussières en 2007 à 5 milliards en 2015. Donc, il n'y a pas de surprise, hein, déficit d'entretien. Après, il y a un autre cas particulier en Italie. On est toujours un peu embêté d'aborder cette question, mais malheureusement, c'est une réalité. Et ce sont des spécialistes de l'économie italienne et du pays qui disent ça, qui disent en fait, à chaque fois qu'il y a des besoins de dépenses publiques dans les BTP, d'accord, en Italie, eh bien, il y a beaucoup d'hésitation de la part de l'État, des collectivités locales italiennes. Pourquoi ? Parce qu'elles savent très bien que dedans, il peut y avoir des entrepreneurs qui sont infiltrés par la mafia, d'accord, et que derrière, eh bien, les juges anti-mafia vont s'intéresser également à ces travaux, ce qui fait qu'il y a une sorte de réaction qui consiste à dire, mais écoutez, on va essayer d'éviter de faire des investissements d'infrastructures, comme ça, on n'aura pas ces problèmes-là. Donc, c'est un élément spécifique à la culture italienne. Mais bon, on va élargir quand même, on ne va pas uniquement casser du bois sur le dos de ces pauvres Italiens. Faisons un petit peu de comparaison européenne en termes de dépenses en infrastructure. On s'aperçoit que la baisse des dépenses en infrastructure, ces dernières années, surtout à cause de la crise de 2009-2010, elle est un peu généralisée. Enfin, non, elle n'est pas complètement généralisée. Elle concerne la France, où le budget est tombé de 14 à 10 milliards d'euros entre 2007 et 2015. Elle concerne l'Espagne, le budget est tombé de 8 à 4. Elle concerne l'Italie, on l'a dit. Mais le Royaume-Uni, c'est le contraire. Le budget des infrastructures est passé de 6 à 9 milliards d'euros. Et en Allemagne, c'est resté assez stable aux environs de 11 milliards d'euros. Donc, on va se dire, Europe du Sud en baisse, Europe du Nord, meilleure santé économique, plutôt en hausse ou plutôt d'un meilleur niveau, c'est à relativiser. Parce que si on parle de l'Allemagne et qu'on raisonne cette fois-ci en pourcentage de la richesse que l'Allemagne crée, ben le tableau il est moins flatteur. Puisque l'Allemagne, c'est 2,2% du PIB investi en infrastructure, c'est-à-dire le même niveau que l'Italie et l'Espagne finalement, et moins qu'en France. La France, c'est 3,4%. Pourquoi ? Mais parce qu'en Allemagne, la politique de rigueur budgétaire pour avoir des budgets équilibrés est un impératif depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, un institut professionnel allemand a montré que 20% des autoroutes allemandes, 41% des routes nationales allemandes avaient besoin d'être remises en état, qu'un tiers des ponts ferroviaires allemands avaient dépassé leur date de péremption, pourrait-on dire, hein, comme pour les yaourts. Et cet institut estime que depuis 1999, l'Allemagne a accumulé un retard de l'ordre de 1000 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures. Oui, donc en fait, c'est un problème européen, cette histoire de retard dans les infrastructures. D'accord ? C'est pas un problème spécifiquement italien. Bien entendu, là-dedans, de fait, les pays d'Europe du Sud sont les plus frappés, d'accord ? Ils sont frappés plus durement que les pays d'Europe du Nord. Mais malgré tout, se pose vraiment la question de cette obsession budgétaire en Europe, qui consiste à prêcher la rigueur à tout prix pour tous les pays de la zone euro en tout cas, et de ses conséquences. Ces conséquences, c'est quoi ? C'est, je vais utiliser des termes économiques, mais c'est quand même une diminution du potentiel de compétitivité européen, d'accord ? C'est l'idée de dire, est-ce que l'approche européenne en matière de gestion économique est la bonne, cette approche que j'appelle souvent une approche de comptable, et qui va donc dire il faut que les budgets soient équilibrés, il faut qu'on diminue la dette, une approche basée sur les flux, hein, pourraient dire les comptables. Et on oublie l'impact sur ce qu'on appelle les actifs, c'est-à-dire le patrimoine de chaque pays. Le patrimoine en termes d'infrastructures notamment, puisqu'on parle de ça, mais on pourrait parler d'autre chose. Et on voit que cette obsession de la rigueur est en train d'appauvrir le patrimoine, les actifs de chacun des pays. Et l'incident du pont de Gênes a amené à cette conclusion.
très bien, Patrick. Très bonne analyse. Alors, nous allons partir sur un petit morceau de musique. Laura Pozzini, La Solitudine, en hommage aux victimes du viaduc de Gênes.
Pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio, ma illuderti non so, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te.
Oui, vous êtes bien sur Calade 100.9, vous écoutez Poker Menteur et vous venez d'entendre Laura Pozzini, La Solitudine. Alors, j'aimerais rebondir sur le thème des problèmes d'infrastructure en Italie par rapport à un cas que je connais particulièrement bien. C'est le cas du tunnel de Tende, situé à la frontière franco-italienne. Alors, c'est un tunnel qui est assez important. Pourquoi ? Il relie Nice à Turin.
Mmh. D'accord.
Et c'est la seule route directe,
ouais,
pour aller de Nice à Turin. Turin est quand même un pôle commercial de premier plan en Italie. Et Nice est une des villes les plus touristiques de France. Donc on imagine bien le rôle stratégique de cette route.
Il y aura une grosse densité de circulation alors.
Énorme. Alors j'ai la chance d'avoir un petit appartement à Bray-sur-Roya. Et j'ai la route devant moi qui passe avec énormément de circulation. Surtout, mm-hmm, le week-end.
Ouais.
bah, tous les Turinois descendre sur la Côte d'Azur.
Ah, d'accord, d'accord.
Ah oui, c'est la route la plus courte quand okay. vous êtes du Piémont. Le problème qui se passe, c'est que le tunnel est complètement saturé. Et le tunnel qui a été construit remonte à la fin, il y a de 1881-1882. Il est extrêmement étroit.
D'accord.
Et quand vous rentrez dans ce tunnel, vous avez l'impression, au départ, de vous encastrer dans la montagne. Mm-hmm. D'autant plus quand vous êtes un bus. Donc, depuis une trentaine d'années, on a voulu doubler le tunnel de Tende.
D'accord.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs problèmes. Déjà, vous êtes sur une route qui est franco-italienne et fréquentée à 80% par des Italiens.
Ah bon ?
Oui. Donc, sur la partie basse de la route, là où vous avez aussi viaduc et tunnel, sur la partie basse
D'accord.
de la route,
ouais.
vous êtes en France et les Français ne veulent que très peu participer financièrement à l'effort.
Oui, parce qu'ils estiment que
c'est les Italiens qui doivent s'occuper de ça.
Pas leur problème.
Donc, il y a encore quelques années, maintenant, ça s'est arrangé maintenant. On a laissé tomber la partie française, c'est-à-dire que vous étiez sur une très bonne route quand vous étiez en Italie, sur la partie française, c'est une catastrophe.
Ah bon?
Et j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Guibal, qui était le maire de Menton. Je lui ai dit, mais comment ça se fait, M. Guibal? Quand on va de Ventimille jusque Tende, hein, c'est la partie qui suit ce qu'on appelle la rivière La Roya. Je dis, mais pourquoi sur la partie française, sur à peu près une dizaine de kilomètres, vous avez une route abominable? C'est simple, l'État français, la région PACA ne veut pas investir là-dedans. L'État estime et la région estime que c'est du ressort uniquement des Italiens. Donc, on imagine ces dossiers traînent, alors qu'il y a un passage énorme, énorme, énorme.
Ouais, ouais.
Surtout en été, camping-car, bus, vous imaginez. Bon. Récemment, elle a été enfin refaite. Donc là-dessus, c'est OK. Mais je reviens au tunnel de Tende. Le tunnel de Tende n'a jamais été doublé. Il y a eu un projet qui avait commencé, où une entreprise plus ou moins douteuse, a priori, qui a été donc sélectionnée par l'État, devait faire ses travaux. Et manque de chance, le matériel a été volé. On est en Italie, hein.
Ah bah oui.
Le matériel a été volé. Donc ce qui fait que le tunnel est toujours en attente d'être doublé. Le tunnel actuel est en très mauvais état.
D'accord.
Quand vous le prenez, vous avez en temps de pluie, vous avez des gouttes de partout à l'intérieur du tunnel. C'est quand même, ça fait un peu flipper, hein, je trouve.
Ouais, ouais.
Et on en est là. Alors, je rajoute autre chose par rapport au viaduc qu'il y a sur cette voie entre Nice et Tende. Vous n'avez que des viaducs et des tunnels.
Mmh. Oui, énorme densité de viaducs.
Ce n'est que ça, parce que c'est que de la montagne, en fait.
Oui, oui.
Et donc, ceci, ça date des années 30.
Ouais.
La partie entre la mer et Bray-sur-Royal date des années 30.
Ouais.
La vitesse du train est de plus en plus limitée. Alors j'ai posé la question, on m'a dit tout simplement parce qu'il y a des tunnels et des viaducs qui sont plus très sûrs.
Mmh, mmh. Donc on voit bien que...
Je vous explique actuellement. Hein.
Oui, oui, oui. Mais on voit bien que cet accident du viaduc de Gênes n'est pas du tout un élément isolé.
Ah non, du tout.
Et statistiquement non significatif. C'est au contraire annonciateur et représentatif d'un état général des infrastructures, des ponts et des viaducs italiens assez dramatique.
J'ai l'impression que c'est un peu la métaphore de l'effondrement de l'Italie, ce viaduc.
Oui, un petit peu, oui.
C'est parce que, et aussi, tu as peut-être oublié d'en parler, mais des conséquences économiques pour le port de Gênes. Qu'est-ce qu'on pourrait citer, par exemple? Alors déjà, pour aller, quand vous êtes, par exemple, du côté de Nice, que vous voulez vous rendre à Rome, maintenant, je parle des chauffeurs poids lourds.
Hein, ah, ça doit être terrible.
Maintenant, vous avez un détour de 120 km par le nord, avec, des, encore une fois, des routes en très mauvais état.
Totalement, ouais.
Et donc, Gênes est devenu, et maintenant, est un peu dans l'impasse, à savoir que, donc il faut faire un détour. On évite Gênes pour aller à Rome, pour aller à Milan, où vous voulez. Mais surtout, le port de Gênes, qui est le port le plus important d'Italie et de la Méditerranée, pratiquement, était un peu isolé. Les containers arrivent, comment font-ils pour repartir après vers l'Europe de l'Est ou vers la France? C'est compliqué.
Il va y avoir un impact économique terrible.
Énorme, parce que ça fait un mois à peu près.
Et ça ne pourra pas se solutionner rapidement. Hein. Ça va prendre 18 mois ou 2 ans, au mieux. Hein.
Ça va prendre, à mon avis, connaissant les Italiens, ça va prendre des années.
Oui, oui, tout à fait. Donc l'impact économique va être dramatique pour l'Italie.
Poker menteur.
Galade.
Très bien, écoute, on va peut-être clore ce sujet-là, mais on va rester en Italie, si tu le veux bien.
Bien sûr.
Puisqu'on a un deuxième élément qui a fait pas mal l'actualité durant les vacances donc d'été autour de l'Italie, c'est la question des migrants, la fameuse question des migrants. Alors, peut-être les plus attentifs d'entre nous auront suivi, je remonte à fin juin, les déclarations du vice-premier ministre italien, monsieur Matteo Salvini. Alors il faut savoir que Matteo Salvini est issu du parti d'extrême droite, la Ligue du Nord. Et rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, la Ligue du Nord a formé avec le mouvement 5 étoiles en Italie un gouvernement de coalition. Alors la Ligue du Nord, c'est de l'extrême droite, le mouvement 5 étoiles, c'est à peu près inclassable puisqu'on trouve dedans à la fois des thématiques qui feraient penser à la France insoumise, hein, en France, mais aussi des thématiques qui font bien penser à la droite extrême. Donc ce mélange bizarre qui est déjà mouvement 5 étoiles s'allie avec l'extrême droite et forme un gouvernement de coalition qui est accepté par le président de la République italien. Et Matteo Salvini, il y a deux vice-premiers ministres en fait. Il y en a un qui est issu donc de la Ligue du Nord et l'autre qui est issu du mouvement 5 étoiles. Mais on voit très bien que Matteo Salvini est en train de prendre le dessus en termes de leadership, ne serait-ce qu'au niveau de ses déclarations intempestives. On voit qu'il mène la danse, hein, la danse de d'une sorte de stratégie de la tension qu'il mène vis-à-vis de ses partenaires européens. Et donc il fait une déclaration fin juin qui est la suivante. Il dit, j'ouvre les guillemets, les ports italiens seront fermés tout l'été aux ONG secourant des migrants en Méditerranée. Donc il les prévient. Et il ajoute, parce qu'il a le sens de l'humour ce monsieur, les ONG verront l'Italie seulement en carte postale. Ça c'est fin juin. Et qu'est-ce qui va se produire durant l'été? Eh bien, durant l'été, il va mettre à exécution ses menaces, puisque l'Italie va bloquer l'accès de ses ports à plusieurs bateaux affrétés par des ONG, et voire même, dans certains cas dont on a moins parlé, des bateaux italiens qui ont récupéré des migrants en perdition sur la mer Méditerranée, eh bien, il les oblige à aller déposer ces migrants en Libye, et donc il refuse de laisser les bateaux des ONG ou les bateaux italiens accoster sur les côtes italiennes. Ce qu'il faut savoir, alors donc ça a été le début d'une polémique très forte, d'accord. Mais parallèlement, quand on rentre un petit peu dans le détail, il faut aussi savoir que l'Italie, je dirais quelque part, Matteo Salvini, le grand méchant loup, est un petit peu cohérent. Donc il a déjà commencé des négociations avec des pays du Maghreb, comme la Libye et l'Éthiopie, pour organiser le renvoi des migrants chez eux, leur faire prendre en charge à ces pays que sont la Libye et l'Éthiopie le contrôle de ces migrants. Il a même fourni, l'Italie a fourni 12 vedettes marines, tu sais, des bateaux de la marine, à la marine libyenne, en ajoutant l'entretien et la formation du personnel pour affecter ces vedettes donc au contrôle des migrants et des bateaux de migrants qui voguent de l'Afrique vers l'Europe. Alors, tout n'est pas si facile, hein, bien sûr, puisque des pays comme la Tunisie, l'Égypte, le Maroc ont au départ refusé cette collaboration. Mais donc, l'Italie a continué sur sa lancée, puisque le 3 août, le gouvernement italien a annoncé un plan d'aide économique à ces pays-là réticents, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, d'un montant d'un milliard d'euros. Et par là, la contrepartie, il entend mettre en place un contrôle des frontières de l'Italie vis-à-vis de l'arrivée des migrants pour atteindre son objectif de zéro migrant qui arrive sur les côtes italiennes. Donc on voit qu'il y a une position très polémique, très dure. Je refuse désormais que les bateaux d'ONG arrivent à Coste et nous déversent leurs migrants, etc. Mais il y a une vraie cohérence dans sa politique. Tout ça, bien sûr, vous l'avez compris, vous l'avez peut-être entendu durant les vacances, ça a fait polémique. Ça a fait pas mal de polémiques, ça a fait des scandales, ça a déclenché des échanges assez musclés entre l'Italie et pas mal de monde, et notamment la France.
Bien sûr.
D'accord. Et plus récemment, enfin, dans le courant du mois d'août, on a vu arriver une alliance qui n'a rien de surprenant entre le vice-premier ministre italien, qui est aussi ministre de l'Intérieur, le fameux Matteo Salvini, et devinez qui, le premier ministre hongrois, Viktor Orban. Et ces gens-là se constituent désormais comme le camp des entre guillemets nationalistes et ont désigné comme cible, comme ennemi préféré Emmanuel Macron, chef de l'État français, qui selon eux est le leader de ceux qui soutiennent l'immigration. D'accord ? Donc on se retrouve dans une polémique intra-européenne.
Il soutient oui et non. C'est...
Ah ben ça va être tout l'objet de la suite de notre discussion. Non, ouais. On va rentrer un peu plus profondément derrière le miroir. Mais
il semble effectivement soutenir l'immigration, mais en fait pas du tout. Mais bon.
C'est ce qu'on va un petit peu découvrir, c'est ce qu'on va un peu explorer ensuite. Mais en tout cas, il était tout content en fait de leur apostrophe, puisque lui, cette position d'être donc l'opposant à ces messieurs que sont Orban et Salvini, ça lui va très bien. Donc il a répondu, Emmanuel Macron a répondu d'un ton martial: je ne céderai rien aux nationalistes et à ceux qui prônent ce discours de haine. On retrouve là un petit peu un petit air de deuxième tour de la présidentielle 2017, d'accord?
Oui. Moi, ce deuxième tour, parce que je pense à ça, ça m'a marqué, parce que on voyait bien, et ça reprend ce que disait Michel Onfray d'ailleurs, il avait raison là-dessus, que Monsieur Macron est un produit de communication. Pour moi, c'est un produit. D'ailleurs, regardez ce qui est arrivé aujourd'hui du patrimoine.
Oui.
Vous avez peut-être vu que on vendait des mugs avec la tête de Monsieur Macron. Vous avez vu ça?
J'ai vaguement
entendu. J'ai vu les mugs, j'ai vu les. Monsieur Macron est un produit.
Oui. Il est d'une génération moderne entre guillemets, hein, qui est née dans les années 80, enfin non, qui est apparu politiquement dans les années 90 avec Tony Blair notamment, hein, qui était un des premiers, Bill Clinton, à rentrer dans une logique de communication moderne très très pointue, très poussée, et il est de cette culture-là. Oui, c'est pas étonnant. Mais en tout cas, on retrouve un peu cette petite ère du bien contre le mal, hein, d'accord. Le mal, c'est les vilains italo-hongrois nationalistes, voire xénophobes, hein, disons le mot parce que c'est la vérité. Contre les bons Français universalistes. Alors, ça c'est le constat de la polémique, mais maintenant il faut rentrer un peu dans le détail. Et le détail, on peut commencer déjà par revenir sur la position de l'Union européenne elle-même. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'Union européenne ? Bah, ne serait-ce que fin juin, elle s'est fixé une feuille de route sur ce sujet, hein, de la gestion des migrants. Et c'était quoi cette feuille de route ? Elle disait, de l'Union européenne, elle disait, bah, il faut trouver des bases de regroupement des migrants hors d'Europe, d'accord. Il faut pousser à la création de centres contrôlés en Europe, mais de centres permanents, d'accord. Par contre, l'ennui, c'est quand on dit ça, tous les pays sont d'accord, mais pas chez eux.
Oui, en gros, c'est
toujours
ça.
Ok, mais pas chez moi. Donc la France, comme plein d'autres pays, a dit non, mais pas en France. Hein, par contre, en Italie, je veux bien, d'accord. Ils veulent bien des centres fermés en Italie, le gouvernement français, mais pas en France. Bref, en tout cas, cette idée de dire on va repousser en dehors de l'Europe les migrants, faire des bases de regroupement, elle a été mise en pratique de toute façon déjà depuis 2-3 ans avec un accord avec la Turquie. La Turquie reçoit, je crois que c'est 1 milliard d'euros en contrepartie de camps qu'elle a créés pour contenir. Et c'est pour cette raison-là que le nombre d'immigrants qui a explosé en 2015 à cause de la guerre en Syrie s'est réduit tout aussi fortement. Pour l'instant, il y a un bouchon là qui est en Turquie qui tient. Mais si la Turquie venait à se fâcher et à lâcher le bouchon,
comme
on
c'est en ce moment les rapports entre les Turcs et l'Europe occidentale ou les États-Unis, pas terrible,
ouais,
même très 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 médiocre. Mm-hmm. On ne sait pas. En fait, c'est une situation assez explosive. C'est un peu une cocotte minute cette histoire.
Oui, tout à fait.
Et moi, je me rappelle quand je faisais déjà mes études de démographie, donc ça remonte à un certain temps. Hein, j'ai pris de l'âge. C'était dans les fins des années 80, et on nous disait déjà à l'époque, il y aura systématiquement une poussée migratoire venant de l'Afrique et de l'Asie, mais surtout de l'Afrique. Et malheureusement, les États ne prennent pas en considération ça. Là, je parle de fin des années 80, début des années 90. Mmh, mmh. Sans parler des migrations qui vont être liées maintenant au climat, sans parler des migrations économiques, ça va être une quantité de personnes à gérer de plus en plus massive. Et alors, il faut absolument qu'il y ait, je dirais, une réunion exceptionnelle entre tous les grands pays occidentaux pour avoir vraiment un plan de qualité. Mmh. Parce que là, sinon, j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi ce qu'on fait là.
Alors, si tu veux bien, on va essayer de faire des petits constats factuels et chiffrés. En France, actuellement, c'est 60 000 migrants qui ont été accueillis en 2017. L'Allemagne, en 2 ans, entre septembre 2015 et septembre 2017, c'est 1 million. Mais bon, ces chiffres peuvent un peu nous embrouiller, puisque si on s'intéresse aux chiffres du nombre de migrants qui ont obtenu un statut, eh bien, on se retrouve à quoi ? On se retrouve avec 40 000 migrants qui ont obtenu un statut en France, 35 000 en Italie, 34 000 en Autriche, 31 000 en Suède, pays 10 fois plus petit que la France, quasiment autant que la France, et Allemagne, 325 000. Donc on voit qu'en fait, il y a vraiment... C'est un peu une fausse polémique, je dirais. Alors bien sûr, l'Italie, la différence, c'est qu'elle a ses frontières,
elle est en première ligne. Elle est en première ligne.
Sinon, ils n'en accueillent pas plus les uns que les autres.
Ils sont en première ligne, et surtout avec la France. Alors, j'en reviendrai peut-être tout à l'heure, parce que je n'ai pas l'heure en tête. Je vais en parler maintenant rapidement. Donc je reviens sur Bray-sur-Royal, non plus lié au problème d'infrastructure, mais lié au problème des migrants. Parce que, justement, nous sommes à la frontière franco-italienne, et depuis je crois que c'est octobre 2015, donc ça fait quasiment 3 ans, il y a à nouveau une frontière entre la France et l'Italie. Il y a, sur la commune de Bray, un énorme bus de gendarmerie, 24 heures sur 24.
Ouais.
24 heures sur 24, qui contrôle sans arrêt les personnes.
Voilà.
Les bus, les véhicules, les motos, ceux que vous voulez. Et vous avez la même chose en arrivant du côté italien à l'entrée de Menton.
Alors, vous avez exactement la même chose. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il faudra leur expliquer qu'on est dans l'espace Schengen depuis les années 90, que normalement ça ne doit pas exister.
Ben ça existe,
il
n'y
a plus de
dire.
Frontières. Et on voit que suite à cet flux de migrants en 2015, les frontières ont été rétablies sans le dire.
Bien sûr.
Et il y a d'autres méthodes du côté de la frontière espagnole. On utilise les lois antiterroristes pour essayer aussi de réguler les migrants. Hein, d'accord, ça a été révélé il n'y a pas très longtemps. Donc on voit que derrière un discours qui est celui du bien contre le mal, d'une société ouverte française contre les nationalistes, on a des pratiques un petit peu du chacun pour soi.
Mais bien sûr. En fait, personne n'en veut.
Oui.
Et en gros, c'est ça. Hein.
Et chacun veut rejeter la poussière sur le tapis du voisin.
Il y a l'Allemagne qui en avait accepté il y a quelques temps 1 million. Maintenant, c'est terminé. Hein. Je pense que l'Allemagne aussi va se fermer.
Oui, on pourra en reparler plus tard. On va faire une nouvelle pause musicale, si tu le veux bien.
Oui, alors nous allons entendre Étranger de IAM.
Citoyen du monde, enivré à la vie, papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci, un étranger à l'étranger, qu'étranger dans mon propre pays. Citoyen du monde, enivré à la vie, papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci, un étranger à l'étranger, qu'étranger dans mon propre pays. Loin des index accusateurs, qui ont mis les voiles vers la peur. Laisse-moi refermer le sac et les grolles, tracer la route vécue sur l'épaule. Vrai, je n'étais pas le meilleur à l'école, mais jaillissais le racket et les vols. À l'horizon, je voyais pas mes 20 ans, me noter juvénile et délinquant. Non, et si les tours ont resserré l'étreinte, sur leur dos ma douleur je l'ai peinte. Je suis encore un enfant du pays, désolé si je ne crie pas en treillis. Chanter aux armes là debout, garde à vous, à ça il mesurerait mon amour. Si je suis digne de la grande chance que les miens soient venus ici en France. La pudeur me mène au murmure, et l'air ambiant dresse de durs murs. Ce n'est pas une naïve allégorie, mais des murs, des vrais qui séparent en catégories. Ils nous supplient de se rassembler, mais où sont ceux qui nous ressemblent à l'assemblée? Devant tant de vaines défiances, mes bagages se referment en silence.
Citoyen du monde, enivré à la vie, papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci, un étranger à l'étranger, qu'étranger dans mon propre pays. Citoyen du monde, enivré à la vie, papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci, un étranger à l'étranger, qu'étranger dans mon propre pays.
Like a stranger in my own hometown.
Le taxi me dépose en avance, y'a tous ces gens qui partent en vacances. Du coup j'ai le temps de me poser, histoire de boire un dernier café. Si on m'avait dit que ça finirait ici, y'a quelques années j'aurais dit impossible. Je n'ai impatient d'affronter la vie, diplôme en main et confiant dans mes chances de réussite. Mais j'ai vu le visage derrière le maquillage, beaucoup de promesses et surtout du chômage. Discrimination à tous les étages, l'égalité jetée au cachot et prise en otage. La haine est de nouveau dans le secteur, elle a les miens dans le collimateur. Tous ces discours qui nous dévalorisent, malgré ce qu'ils disent, les diplômes ne changent pas ta couleur. Les relations aussi se fragilisent. À la moindre occasion, ils nous divisent. Nous rappelant qu'on n'est pas tous ici. Et la connerie a fait basculer tous les indécis. Alors j'ai mis mon cœur dans ma valise. J'ai embrassé mes amis, ma famille. Ici on veut me voir telle une chenille. Je préfère être un papillon ailleurs.
Citoyen du monde, enivré à la vie. Papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci. Un étranger à l'étranger qu'étranger dans mon propre pays. Citoyen du monde, enivré à la vie. Papier rectangle pour une terre ronde. Je préfère être sans souci. Un étranger à l'étranger qu'étranger dans mon propre pays.
Calade.
Vous écoutez Radio Calade, nous venons d'écouter IAM, l'étranger. C'est l'émission Poker Menteur. Nous allons finir cette émission en revenant, en bouclant la boucle, et en revenant à la question des épisodes climatiques assez violents qui ont eu lieu cet été, annonciateurs d'un réchauffement climatique qui aujourd'hui est à peu près incontestable. Et je vais te laisser la parole, Franck, pour que tu nous parles un petit peu de la situation française, et même, je dirais, locale, lyonnaise. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur les épisodes de chaleur cet été ?
Oui, alors, tout simplement, je suis allé sur le site de Météo France, donc vous voyez... Un site sérieux, a priori. Et j'ai regardé, en fait, sur la page climat, les relevés qu'on a eus à Lyon lors du mois de juin, lors du mois de juillet et lors du mois d'août. Bon. Alors, je précise, pour un climatologue, ça, il faut le savoir, en fait, l'été, ce n'est pas juillet, août, septembre. Ça, il faut le savoir. Ouais. C'est juin, juillet, août.
D'accord.
Septembre, octobre, novembre, donc vous êtes en automne. Et décembre, janvier, février, vous êtes en hiver. Et d'accord. Mars, avril, mai, vous êtes au printemps. Eh bien, j'ai regardé. Alors, théoriquement, dans une donnée de base, dans une étude qui a été faite entre, alors je l'avais noté, 1981 et 2010. Entre 1981 et 2010... On a une température moyenne à Lyon, donc en juin, juillet, août, de 20,5
degrés. D'accord.
Là, j'ai fait mes calculs, j'ai fait les moyennes avec les relevés que j'ai reçus sur le site de Météo France. On est à 23 degrés.
D'accord.
Donc, on est 2 degrés et demi au-dessus de la moyenne qu'on devrait avoir normalement à Lyon. C'est-à-dire que nous avons le climat ici qu'on en a à Rome.
Voilà. C'est un petit peu annonciateur de ce qui va perdurer dans les années à venir.
Donc, on se dit bien que là, le réchauffement, là, il est au niveau factuel, il est indéniable. Est-ce que les hommes politiques ont réagi par rapport à tout ça, sachant qu'on le dit depuis des années?
Ils ont réagi, t'as pas entendu?
N'est-ce pas?
Bah, Monsieur Hulot a démissionné, voilà.
C'est une réaction. Je te laisse la parole là-dessus, vas-y.
Bon, on fait un peu d'humour, mais malheureusement, c'est exactement la réalité. Nicolas Hulot a annoncé il y a une quinzaine de jours, c'était le ministre de l'Environnement, a annoncé qu'il renonçait. Pour quelle raison? Bah, il a estimé qu'il n'avait pas les moyens d'accomplir sa mission. D'accord. Il a constaté qu'il était quasiment seul à être convaincu de la priorité absolue à donner à cette thématique du réchauffement climatique seul dans le gouvernement français et de la thématique de la dégradation de notre écosystème. Et donc que la gravité de la situation fait, selon lui, alors là il a eu des mots précis, il a dit la politique des petits pas n'est plus d'actualité, c'est pas possible. Les petits pas nous font perdre un retard qui est en train d'être irréversible. Donc, il a pris acte, d'accord. Alors, il a expliqué que quand il était au gouvernement, enfin, dans son expérience au gouvernement, ce qu'il a constaté, c'est qu'à chaque fois qu'il fallait prendre des mesures fortes, eh bien, il se heurtait à ses collègues très puissants du ministère de l'Agriculture et autres, qui n'ont pas du tout cette priorité en tête qui est la sienne. D'accord. Il a également cité, et ça, c'est un point important, qu'il se heurtait aussi à des lobbies extrêmement puissant, infiltré très profondément dans les assemblées nationales et européennes, françaises et européennes, au gouvernement, et dont leur influence fait que ils se retrouvent face à la meute, en quelque sorte. Il dit « je suis seul » et « je suis face à la meute », seul face aux autres ministères, où chacun défend ses intérêts de court terme, ce qu'on ne peut pas leur reprocher, mais seul face à des lobbies qui également fournissent à tous les politiques le prêt-à-penser, hein, qui est nécessaire. Et lui qui raisonne long terme, il voit que le long terme n'est pas audible dans ce gouvernement.
Est-ce qu'il aurait pu s'en douter, ça, au départ ?
Je pense qu'il s'en doutait, je pense qu'il s'est dit « il faut quand même que je tente le coup puisqu'on me le propose, puisque c'est facile de critiquer et je vais essayer ». Et il a dit je m'arrête avant d'être de m'habituer à mes échecs, d'accord, de m'habituer et de me résigner. Donc moi je lui jetterai pas la pierre parce que c'est bien d'avoir essayé. Mais alors sa décision a pas mal secoué l'opinion, d'accord. On a vu des manifestations de grande ampleur très rapidement derrière. Donc ça crée une prise de conscience dans la population, puisqu'il estimait quand même qu'il n'était pas beaucoup soutenu dans la population. Est-ce que ça va créer une prise de conscience dans le gouvernement actuel ? Je vous laisserai répondre, mais pour moi, je pense que la réponse est négative, hein, d'accord ? Sur un plan concret, le gouvernement, pour le remplacer, a d'abord cherché à embaucher une pointure dans le domaine de l'écologie. Donc, ils ont été toqués à la porte de Daniel Cohn-Bendit, qui a dit non. Probablement parce qu'il s'est aperçu qu'il n'aurait pas les moyens de son action. Ils ont été toqués à la porte de Pascal Canfin, qui est le président du WWF France et qui est quelqu'un qui a une grosse expérience dans plein de domaines, qui est intéressant. Il a dit non pour les mêmes raisons. Donc voilà, ils sont rabattus sur François de Rugy, hein, qui est de la famille, c'est bon, il va pas trop la ramener et tout ira très bien. Donc non, je pense que la prise de conscience au niveau du gouvernement, elle n'a pas eu lieu.
Mais pourquoi garder un ministère de l'écologie ?
Ah ouais, non, mais quand même, faut pas abuser, parce que là, ça va se voir s'il supprime le ministère de l'écologie.
Parce que je veux dire, s'il a un rôle complètement d'homme invisible, je veux dire, quel est l'intérêt de maintenir un ministère de l'écologie ?
Alors, s'il nous reste un peu de temps, je voudrais quand même citer deux documents très importants qui doivent être publiés d'ici la fin de l'année par le gouvernement, d'accord, fin 2018. Le premier document, celui dont on parle le moins, c'est ce qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Ce document, il va programmer la baisse des émissions de gaz à effet de serre que la France doit réaliser dans tous les secteurs d'activité dans les prochaines années jusqu'en 2033. Le deuxième document, on en parle plus souvent, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui définit les trajectoires d'augmentation de production d'énergie renouvelable et de baisse de production et consommation d'énergie fossile. Ces documents sont des obligations depuis la loi de transition énergétique de 2015, puisqu'ils fixent les objectifs à long terme. Et les objectifs à long terme, on les connaît, c'est ce qu'on appelle le facteur 4 en France, c'est-à-dire qu'il s'agit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport au chiffre de 90. Or, on parle beaucoup moins du premier, la stratégie nationale bas carbone, parce qu'en fait, l'obsession nucléaire française fait qu'on se focalise beaucoup sur le deuxième document. Mais le premier est assez intéressant, puisqu'il nous donne les budgets carbone qui avaient été fixés en 2015. Alors, pour la période 2014-2018, la France devait avoir 440 millions de tonnes de CO2 émis par an. Et puis tomber entre 2019 et 2023 à 398 par an. Et entre 2024 et 2028, tomber à 357. Sauf que, dans la période actuelle, on a eu non pas 440, mais 441 en 2014, 451 en 2016, probablement autant, voire plus en 2017. Donc on est sur un vrai dérapage. D'accord ? On ne tient pas du tout. Alors il va falloir rectifier et durcir les chiffres des années 2019, 23, 2024, 28, 2029, 33. Mais par quelle opération de baguette magique obtiendrait-on des résultats extrêmement spectaculaires dans ces années 2019 à 2033, alors qu'on est en plein dérapage dans les années 2014 à 2018? On voit bien que là, on est sur... et là, on revient à ce que Nicolas Hulot a dit, sur une non-prise de conscience du fait que c'est pas des petits pas qu'il faut, mais c'est chaque année qu'il faut tenir ces objectifs-là. Et si chaque année on ne les atteint pas, on est dans une situation extrêmement grave, parce que l'objectif du facteur 4, il s'éloigne de plus en plus, en quelque sorte.
Très bien, écoute, merci pour toutes ces informations, Patrick. L'émission va se terminer. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés pour cette rentrée. Je vais souhaiter une bonne soirée à Mathieu, bonne soirée à Patrick.
Bonne soirée.
Et au mois prochain. Et portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.